Procureur de la République de Paris, après la mise en examen d'un responsable du service de sécurité. Renault convoque un conseil de crise à 16h.
Ce soir, à 21h, France Inter vous invite à partir avec Sandrine Mercier.
Règle numéro 1, ne pas s'étonner quand deux hommes demandent un lit double dans un hôtel. Au Salon mondial du tourisme, qui ouvre ce jeudi à Paris, il y aura un espace gay et lesbien. Comment les homos voyagent-ils? Quelles sont leurs destinations préférées? Et faut-il boycotter les destinations anti-gays? Je passe vous prendre ce soir pour Amsterdam et Ibiza, deux paradis gays, à partir de 21h.
France Inter. La différence.
Bon après-midi sur France Inter, voici Daniel Mermet, là-bas si j'y suis.
Ben voilà, ça y est, c'est la fin d'une vieille opposition. Le Japon vient de nous prouver que ça pouvait être le nucléaire et la bougie. C'est fantastique.
Salut Daniel, salut à tous les AMG. N'ayez crainte surtout, ayez confiance. Éric Besson, il va vous les renvoyer chez eux, les Becquerel. Parce que si les Niakoués y construisent des centrales atomiques de merde, nous ici, c'est du sérieux, du solide, du maîtrisé. Pas comme ces Américains ou ces Russes qui nous envient, nos ingénieurs nucléaires. Surtout quand ça pète chez eux. Non, on vous le dit, ici en France française, le nucléaire, c'est sûr, c'est propre, c'est rentable. Et tout est sous contrôle. Surtout l'opinion publique. On aimerait juste comprendre pourquoi de Tokyo à Washington et de Paris à Tchernobyl, la mafia énergético-nucléaire fait prendre d'énormes risques aux populations et aux générations futures. Avec la complicité de nos politiques, qui eux ne maîtrisent qu'une seule chose, leur image. Et encore, avec eux, nos enfants s'appelleront peut-être vers de terre. Salut à tous, c'est Jean-François à Chambéry. Ciao.
Les élus de gauche du canton de Solesmes, dans le nord, région du Cambrésis, vous invitent à venir nombreux au rassemblement organisé le mercredi 16 mars à 18h face à la centrale EDF rue Jules Guesde à Solesmes, dans le nord, pour protester contre le hold-up pratiqué par le gouvernement de droite sur la production d'électricité. La loi NOM, nouvelle organisation du marché d'électricité votée par le Sénat, prévoit qu'EDF va devoir céder 25% de sa production à ses concurrents privés, ceci au plus grand profit de leurs actionnaires. Ces 25%, ce sont les contribuables qui les ont payés. Les usagers vont devoir payer aussi 300 euros des nouveaux compteurs installés de force par EDF. Refusez ces compteurs, refusez de signer quelques documents que ce soit. Venez nombreux, mercredi 16 mars à 18h à Solesmes dans le Nord, devant la centrale EDF rue Jules Guesde pour protester. Ne laissez pas faire, entrez en résistance.
Merci, merci. Ah, merci, avec une telle émotion que ça passe encore mal. C'est dommage que 60 minutes ne fassent qu'une heure. Comme ça a été court. En fait, voilà. Natif du riz, j'étais bercée par Jean Ferrat. Chez mon père, on disait, on met un petit Léo, un petit Georges, et chez moi, on disait, on met Jean Ferrat. Et je voulais dire qu'il avait été précurseur. Quand on se souvient de « Tu verras, tu seras bien », c'est les maisons de retraite aujourd'hui, elle était assez terrible, et une berceuse pour un petit loupio, alors, les laboratoires pharmaceutiques et autres. Comment, il y a des gens qui ne devraient pas disparaître. C'est un être exceptionnel qui nous a quittés. Et merci Daniel Mermet, merci à ton équipe. Merci, c'est rare les émotions à la radio. Je raccroche avec une grande émotion et un grand merci à nouveau.
Oui, bonjour Daniel, merci pour l'ensemble de tes émissions. Tu vois, je viens d'écouter Ferrat et pour moi Ferrat, au-delà de tout ce qu'il représentait, notamment son génie à mettre en parole nos mots et nos espoirs, pour moi qui habitais alors Saint-Omer, Ferrat, c'est le souvenir d'une femme, de Betty, que j'ai tellement aimé, follement aimé, et sans doute mal aimé. Mais un jour, pour moi, elle a mis un disque de Jean Ferrat, et la chanson était « Que serais-je sans toi ?» Ce message qu'elle m'envoyait alors est encore vivant en moi, aujourd'hui, malgré mes 60 balais. Salut Daniel, merci.
Amis des betteraves du Gâtinais, le repère de Toussons, village entre Milly-la-Forêt et Malesherbes, se réunira ce mercredi 16 mars à partir de 19h30 sur le thème du pétrole de schiste à l'initiative du collectif Stop le pétrole de schiste 77. Cela commencera par une petite présentation des deux méthodes d'extraction du pétrole avant de regarder le film document Gazland qui sera projeté vers 20h15 environ. Ensuite, les intervenants engageront le débat avec les participants. Cette soirée se déroulera dans le dernier bistrot du village, la Tête d'Étrain, place de l'église à Tousson, sud Seine-et-Marne. Venez nombreux, nous vous attendons. Salut.
Salut, merci pour ces messages, chers AMG. On commence ce numéro de la basse. J'y suis avec une pensée pour nos amis japonais. Il y a peu de temps, nous étions, vous en souvenez, là-bas, au Japon. Vous avez rapporté toute une série de reportages, ce qui fait que, on a créer des liens avec des Japonais, mais aussi on a découvert ce pays, ces paysages, dans lesquels d'ailleurs ces drames se déroulent aujourd'hui. Donc hommage et courage à nos amis japonais. Aujourd'hui, c'est le Monde Diplomatique, le numéro du Monde Diplomatique du mois de mars, enregistré à la Java, avec l'Orchestre National de Barbès. Vous allez voir que ça déménage très fort, tout comme nos invités Serge Halimi, Raphaël Kempf, Akram Belkaïd et Gilbert Achkar. Voilà nos invités. Puis tout à fait autre chose, on vient d'entendre cet ami, ce correspondant du repère, de la Tête d'Étrain, qui est très fidèle. Je voudrais dire une chose aux correspondants des repères de la basse, si j'y suis, ceux qui souhaitent figurer sur la liste des repères de la basse, si j'y suis, nous vous demandons de nous communiquer un mail où nous pouvons vous joindre afin de vous adresser des messages de temps à autre. C'est important quand même pour un minimum d'organisation. Les cafés repères de la basse, si j'y suis, se portent bien, et même peut-être trop bien, parce que ça entraîne un certain nombre de récupération et quelques dérives. Ainsi, nous avons été informés d'une initiative intitulée « Rencontre des repères résistants » qui s'adresse aux amis modestes et géniaux et qui demande de verser des frais de participation de 100 euros par repère. Je voulais vous dire que nous n'avons rien à voir avec cette initiative. Nous n'avons pas été contactés par les instigateurs de cette ce qui ressemble beaucoup, beaucoup à une aventure. Et je tiens donc, nous tenons donc, l'équipe de la basse, j'y suis, tient donc à vous mettre en garde contre cette initiative. Voilà, on vous en reparlera sans doute à plusieurs reprises si ça doit se développer. Il y a d'autres initiatives qui seront prises, on vous tiendra au courant, mais ce sera à visage découvert et non pas par derrière. Alors, encore une fois, je le répète, adressez-nous vos mails à daniel.mermet@radiofrance.com. daniel.mermet@radiofrance.com, c'est le mail de l'émission. Aujourd'hui, donc, on s'embarque pour la Java avec l'équipe du Diplo autour du thème « Ce que le réveil arabe va changer ». C'est un seul thème aujourd'hui avec nos invités et l'équipe du Diplo qui intervient. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de la basse, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
Oui, bonjour les AMG, un petit téléphone de Genève. On vient d'avoir un week-end d'élection, c'est assez significatif. Le mouvement des citoyens genevois, donc le MCG, version parti fasciste localisé à Genève, remporte les élections. Et dans certaines communes, comme une des plus grosses de Genève, comme Versoix, on peut se poser des questions sur la validité d'une élection à la proportionnelle. C'est quand même assez effrayant. 7640 électeurs inscrits. Celui qui a le plus grand nombre de suffrages obtenus arrive péniblement à 840. Et les mouvements fascistes, ou plutôt d'extrême droite populiste, qui rentre grâce à la technique de la proportionnelle, entre avec 251 voix dans un conseil municipal, avec une participation record de de 37,4% de la population. Il y a de quoi se remettre sérieusement en question sur les techniques d'élection et la validité d'un système démocratique. Bonne journée.
Bonjour Daniel, bonjour toute l'équipe, voilà, c'est Maria de Levallois. Et je vous appelle parce que maintenant, avec tous ces gens qui sont les samedis, les dimanches dans la rue, Balkany, sa femme, toute l'équipe en train de faire de salam alaikum à tout le monde pour essayer de nous amener à voter pour eux. Et moi, je dis que c'est une honte. Moi, je n'ai 72 ans. Moi, ça fait 50 ans que je suis à Levallois. Moi, j'ai toujours travaillé, je n'ai jamais été au chômage. Grâce à Dieu pour moi. Et ça fait 40 ans que j'ai fait une demande des HLM, une toute petite studio, parce que moi je ne gagne pas non plus des milliers et des millions pour pouvoir me loger, parce que je suis dans une loge, dans très peu de temps, ils vont me foutre dehors parce qu'ils vont les vendre. Voilà. Et j'attends toujours. Ça, c'est les Ceausescu de Levallois. Ils font donc les gens qui lui passent la main au sang de poil. Je n'ai jamais appris ça. Voilà, je suis vieille, mais je n'oublierai jamais le genou. Merci.
Oui, bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe de Là-bas si j'y suis, et à tous les auditeurs modestes mais géniaux. Voilà, le prochain repère de Cahors aura lieu le mardi 15 mars, au bar Les Platanes à 20h30. Je répète, donc le mardi 15 mars, au bar Les Platanes à 20h30. Nous y parlerons entre autres des territoires en transition. Et ce débat sera animé par quelques membres de l'association Coquelicose de Limogne-en-Quercy. Merci, c'était Loulou de Cahors.
Amis de l'île et du Nord, bonjour. L'hôpital en danger, notre santé maltraitée. Les amis de Là-bas si j'y suis de Lille reçoivent ce lundi soir à 20h Anne Hermetz, sage-femme et cadre hospitalier. Venez donc nombreux échanger et discuter au Café Repère L'Imaginaire, 5 place Louise de Bitigny dans le Vieux-Lille à 20h. Merci.
Salut, c'est Là-bas si j'y suis, à la Java, avec l'équipe du Monde Diplomatique, autour du numéro de ce mois de mars. Et avec l'Orchestre National de Barbès. L'Orchestre National de Barbès, que vous pouvez applaudir. On a convenu avant, hein, aussi, ça veut dire applaudir. Hein. Applaudir, sourire, réfléchir. On va commencer par là, par réfléchir. On va presque avoir un seul thème. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'articles, évidemment, comme chaque mois, dans le monde diplomatique, mais on va parler que d'un seul sujet, ce que change le printemps arabe. C'est ça qui nous préoccupe le plus, et vous aussi, j'en suis certain. Et on va commencer par Serge Halimi, qui fait partie de ceux qui s'inquiètent de ce que l'Iran devient dans cette situation, mais du modèle aussi, parce qu'on dit « Ah oui, mais alors, vous savez, ce qui se passe en Tunisie, ce qui se passe en Égypte, ça rappelle beaucoup la révolution iranienne, qui avait été un formidable printemps aussi, et qui a tourné comme nous savons. » Ça, c'est un des exemples qui est rappelé. Il y en a un autre, la chute du mur de Berlin. J'ai oublié de vous présenter nos invités aujourd'hui, Serge Halimi, Gilbert Achkar, qui est professeur et qui est venu spécialement de Londres pour ce numéro dans lequel il participe, Akram Belkaïd, qui est journaliste et qui nous parlera, lui, de la Tunisie, et Raphaël Kempf, qui est juriste et qui nous parlera de l'Égypte. Donc on commence par Serge, qui se demande si c'est bientôt l'Iran.
Moi, je crois qu'il est quand même important de refuser de présenter certains soulèvements démocratiques comme moins purs que d'autres, parce qu'ils cibleraient des adversaires supposés des États-Unis. Et on entend un peu cette petite musique de gens qui sont moins enthousiastes quand le mouvement de révolte ou d'expression démocratique concerne la Libye, parce qu'ils se souviennent qu'à une période, la Libye était un pays qui affirmait son opposition à l'Occident, sa volonté de lutte et de solidarité arabe. Donc moins enthousiaste quand ça concerne la Libye ou quand ça concerne l'Iran que quand ça concerne l'Égypte ou la Tunisie, qui sont des alliés de longue date des États-Unis. Et quand il s'agit de l'Iran ou de la Libye, alors on se demande si derrière tout ça, il n'y aurait pas des manœuvres, il n'y aurait pas le pétrole, la recherche de bases américaines. Et je pense que là, c'est quand même une évolution, une manière de voir les choses un peu conspirationniste qui me paraît dangereuse. Il y a une volonté démocratique qui maintenant s'étend. Il y a cet effet de souffle. Et il me semble qu'on doit l'accueillir avec faveur partout. Et dans le cas de l'Iran, on assiste évidemment à ce paradoxe de voir le régime au pouvoir qui prétend que ce qui s'est passé en Tunisie ou en Égypte serait la conséquence retardée, différée du mouvement de 1979, de la révolution islamique, alors que naturellement il s'agit de quelque chose qui n'a rien à voir avec la révolution islamique, et qui trouve face à lui des opposants qui, eux, se réclament de ce qui se passe en Tunisie, en Égypte, et qui accueillent ces opposants en leur tirant dessus, les menaçant des pires châtiments. Donc le propos de cet éditorial était d'exprimer en quelque sorte la solidarité, évidemment, du monde diplomatique, pour autant qu'elle vaille quelque chose, à la fois évidemment aux Tunisiens, aux Égyptiens, mais aussi aux Libyens et aux Iraniens, même si les seconds, les Libyens et les Iraniens, parfois prétextent leur opposition aux États-Unis et expliquent que tous ceux qui sont opposés aux États-Unis devraient les soutenir, même quand eux font tirer sur leur peuple.
Voilà, on va se tourner vers nos deux amis, Akram Belkaïd, qui était en Tunisie, et puis Raphaël Kempf, en Égypte, à travers des choses vues, puisque vous étiez là-bas, vous avez vu un certain nombre de choses. Akram Belkaïd, en Tunisie, entre l'enthousiasme et la crainte, évidemment, que la crainte, plein de craintes, la crainte du chaos, la crainte que cette révolution, parce que c'est bel et bien une révolution, ne soit volée, ne soit détournée.
C'est effectivement ce qu'on ressent, à la fois une grande ferveur. Je dirais que c'est encore un climat insurrectionnel, mais en même temps, la Tunisie se sent un peu seule. Mais en même temps, comme l'a dit Serge, il y a une volonté d'aller jusqu'au bout de beaucoup de gens. Les gens revendiquent aujourd'hui le droit à de meilleures conditions sociales, à de meilleurs salaires, à de meilleures conditions de travail. Et tout cela inquiète une partie de la population tunisienne. C'est-à-dire qu'on avait grosso modo 90 à 95% de la population qui, début janvier, était réunie dans sa détestation du régime de Ben Ali et qui voulait que ce régime tombe. Aujourd'hui, je vais oser le dire, hein, aujourd'hui, la lutte des classes est en train d'un peu de reprendre le dessus et les Tunisiens se découvrent finalement des intérêts divergents. Et c'est dans la gestion de ces intérêts divergents que la transition démocratique risque de déraper à un moment ou à un autre. Mais en même temps, il y a aussi la crainte.
C'est l'entrée dans la démocratie, quoi.
C'est l'entrée dans la démocratie qui effraie beaucoup de gens.
C'est quoi la ligne de partage, elle, entre une gauche et une droite ?
D'abord, il y a une gauche très organisée, enfin, qui essaye de s'organiser, qui va des syndicats, notamment l'UGTT, l'Union Générale des Travailleurs Tunisiens, qui commence à être doublée sur sa gauche par des gens qui ont des revendications encore plus fortes, sociales. En face, les partis dits libéraux, en tout cas, sont assez déconsidérés dans la mesure où nombre d'entre eux ont frayé avec le régime de Ben Ali. Et surtout, le patronat est silencieux parce que, justement, le patronat tunisien, c'était les grandes familles, Trabelsi et autres, qui avaient mis l'économie en coupe réglée.
On n'entend pas beaucoup parler d'épuration. On pourrait s'attendre, dans une situation comme celle-là, à ce qu'il y ait une épuration, des violences, des jugements, face à ce système, justement, qui était très policier, très violent, avec des tortures, etc. Est-ce qu'on a une épuration ?
Alors, c'est vrai que le terme est assez fort. Ce que les Tunisiens réalisent aujourd'hui n'a pas été, parce qu'on parle beaucoup de printemps arabe, alors j'ouvre une parenthèse, je rappellerai qu'il y a un pays arabe qui a connu une tentative de printemps, c'est l'Algérie dans les années 80, et que l'Algérie a fait beaucoup d'erreurs, que les Tunisiens ne sont pas en train de faire aujourd'hui. Les Tunisiens ont chassé Ben Ali quand les Algériens ont gardé Ben Jedid, même après les morts d'octobre 88. Les Tunisiens viennent de dissoudre le RCD. Les Algériens ont gardé le FLN. Donc, le mot épuration n'est peut-être pas celui qu'il faut utiliser parce qu'il est très connoté, mais tout de même, dans toutes les administrations tunisiennes, dans les ministères, dans les entreprises publiques. On a dit à des gens « dégage », y compris dans la presse. Et les gens trouvent d'ailleurs que ça ne va pas assez vite dans certains secteurs, notamment. Alors la police politique a été dissoute, mais là on entend des voix de gens qui revendiquent et qui exigent que ceux qui les ont torturés, ceux qui les ont harcelés, soient traduits devant la justice. Et la presse tunisienne publie des noms. Les télés tunisiennes comme Hannibal TV organisent des débats où on voit des gens obligés de quitter le plateau parce qu'il y a des auditeurs qui appellent en disant « mais ce type-là qui parle de démocratie, c'est lui qui a condamné à mort des islamistes dans les années 90, il n'a rien à faire sur votre plateau et donc on prie le monsieur de quitter le plateau ».
En direct, non, en direct.
En direct, oui.
Bon, vous restez tous là pour l'instant.
Pour le moment, oui. Voilà. Non, non, mais c'est pas d'épuration, mais une volonté de changement assez forte. Et je terminerai par dire qu'on a beaucoup parlé des réfugiés de Lampedusa, de ces jeunes qui sont censés envahir l'Europe. On n'a pas suffisamment dit que parmi eux, il y avait beaucoup de gens qui avaient intérêt à quitter la Tunisie.
Indépendamment de ça, cette situation délicate, disons, est-ce que vous sentez des gens qui ont envie de partir de leur pays, de profiter
pour... Oui, on va pas le cacher, bien entendu, parce que le changement, il ne va pas arriver tout de suite. Quand vous êtes chômeur, vous n'avez rien. Ce n'est pas la révolution. Bon, vous êtes content, mais en même temps, il faut vivre. Et à une opportunité, on essaye. Mais ça vaut surtout pour, je dirais, les catégories les plus défavorisées. À l'inverse, on voit renaître beaucoup d'espoir chez toute une catégorie de la population qui était totalement désespérée. On va parler des journalistes, on va parler des jeunes entrepreneurs, de ceux qui avaient des idées pour leur propre pays. Là, pour le coup, ça m'étonnerait qu'ils partent aujourd'hui. Au contraire, ils comprennent qu'il y a une carte à jouer pour eux.
Est-ce que vous avez des questions à poser, déjà sur la Tunisie, des observations, des questions ?
Oui, c'était sur le rôle du syndicat où j'ai été. On entend d'ici et là que dans les manifestations, les émeutes de Gafsa de 2008, ils n'ont pas joué le rôle qu'il fallait. Donc le mouvement est resté confiné à cette région. Mais cette fois-ci, ils ont joué un rôle catalyseur, un rôle de... ils ont généralisé le mouvement. Ça veut dire que la direction de l'UGTT, cette fois-ci, a été débordée par la gauche. Et ils ont joué un rôle de généralisation du mouvement. Est-ce que c'est vrai? Et si oui, jusqu'à quel degré?
Alors, Akram?
Oui, c'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, on commençait à l'UGTT était très critiquée parce que, comme toutes les grandes organisations en Tunisie, elle a été obligée de plier un peu par rapport au pouvoir de Ben Ali. Et c'est vrai que par rapport aux émeutes, déjà de 2005, parce qu'il y avait eu des émeutes en 2005, et celle de 2008, l'UGTT a contribué d'une certaine manière à faire en sorte que le mouvement soit contenu dans la région, notamment de Gafsa et du sud du pays. Cette fois-ci, elle a été débordée, effectivement, par la base, par des gens qui ont menacé de créer des syndicats indépendants. Le mouvement de protestation a été tellement important et les violences ont été tellement importantes que l'UGTT ne pouvait pas se faire complice implicite du pouvoir.
Serge Alimi.
Pour une précision sur Gafsa, il y a un sit-in à Tunis pour réclamer de la compagnie des phosphates de Gafsa 17 000 embauches pour les 17 000 familles nécessiteuses de la région, au prétexte que le soulèvement qui a renversé Ben Ali doit beaucoup aux émeutes de Gafsa de janvier 2008. Et là, on voit à quel point le mouvement démocratique qui a éclaté à partir de décembre dernier est aussi la conséquence de cette ébullition sociale.
On va parler de l'Égypte dans un instant, mais on va d'abord demander à nos amis de l'Orchestre national de Barbès d'illustrer ce que nous venons de dire.
We'll be right back.
l'Orchestre national de Barbès, avec l'équipe du monde diplomatique autour de ce numéro du mois de mars. Et nous consacrons cette émission tout entière à un seul des sujets traités par le diplo ce mois-ci, ce que change le réveil arabe. On a parlé avec Akram Belkaïd de la Tunisie, avec Raphaël Kempf, on va évoquer l'Égypte. Il y a plein de différences, évidemment, vous avez peut-être remarqué, entre ces deux pays et ces deux histoires, même si ça nous a été raconté un peu de la même façon. On a découvert, entre autres, on va en parler évidemment avec Gilbert Achkar, que les frères musulmans ne sont pas si méchants que ça, ils sont même assez gentils. Notre nouveau ministre des Affaires étrangères les a rencontrés. Mais ce que Raphaël Kempf dit dans ce papier, c'est qu'en fait, on nous a présenté un peu la révolution égyptienne comme la révolution Facebook, hein, des classes moyennes qui, grâce à Facebook, communiquent enfin, et grâce à Internet, enfin, ça produit cette révolution. Or, évidemment, on évoquait ce qui s'est passé en Tunisie, c'est une longue fermentation, c'est un long travail, souvent désespérant de la part des uns et des autres, les classes moyennes et les autres, les classes populaires. Et là, c'est un petit peu ce qui s'est passé aussi. Ce que vous avez pu observer, c'est que il y a beaucoup de mouvements sociaux.
Énormément. Ce que laisse entendre mon article, en fait, c'est est-ce que ce sont les ouvriers qui ont fait tomber Moubarak ? C'est-à-dire que vu de France, on a l'impression que c'est les jeunes de Facebook, les jeunes de Midan al-Tahrir. On n'a pas l'impression que les ouvriers ont joué aucun rôle là-dedans. Or, on observe, ce sont des faits, quelques jours avant la chute de Moubarak, les ouvriers entrent dans la danse. Et on observe des grèves qui pètent de partout. Enfin, mais vraiment, hein. Moi, quand j'étais là-bas, je ne savais pas où donner de la tête. J'avais des contacts avec des groupes de gauche, trotskistes, des journalistes engagés, etc. J'essayais de savoir où aller pour voir des grèves. Et vraiment, il y en avait partout, je ne savais pas où donner de la tête. Ça, tout le monde voulait la tête de son petit Moubarak, du directeur de l'usine. C'est-à-dire, dans toutes les usines où je suis allé, on voyait les mêmes revendications sur les salaires, sur le travail temporaire, parce qu'il y a énormément de problèmes liés au travail temporaire, aux contrats précaires. Donc on demandait la consolidation des contrats précaires, par exemple, on demandait l'augmentation des salaires, on demandait un salaire minimum, et souvent on demandait un salaire maximum. Parce que je rappelle que la Constitution égyptienne, en son article 23, dispose qu'il faut qu'il y ait un revenu maximum admissible qui soit fixé. Voilà. Donc on demandait toutes ces revendications-là, et en plus on demandait la tête du président de la société. Voilà. Donc la question que je pose à partir de ces simples faits, c'est est-ce que ce sont les ouvriers qui ont fait tomber Moubarak ? Je ne sais pas, les liens de causalité sont souvent assez difficiles à établir, surtout dans ce genre de domaine. Mais c'est vrai que l'armée a fait tomber Moubarak peu de temps après l'entrée des ouvriers dans la danse. Et l'armée a cherché très rapidement, après la chute de Moubarak, à faire cesser ces grèves. Elle a lancé plusieurs communiqués pour appeler à l'arrêt des grèves, à l'arrêt des protestations. Ils ont envoyé des textos sur les téléphones portables que moi aussi j'ai reçus, où on me demandait de ne pas faire grève. Bon, je travaillais comme journaliste, je ne pouvais pas ne pas faire grève ce jour-là. Donc après, s'est développé un discours qui était le discours de la stabilité, appelant l'arrêt des grèves parce que ça crée des craintes pour les investisseurs internationaux.
Ah ben oui.
Ah oui. Ça crée des problèmes, les touristes ne vont plus venir.
Oula.
Donc voilà, on a un peu cette idée qu'on a eu la première partie de la révolution. Voilà, on a la liberté d'expression, on a des amendements constitutionnels qui vont probablement être admis par référendum par le peuple le 19 mars prochain, on pourra en parler. On a une démocratisation, des libertés, comme dirait l'autre, bourgeoises. Et maintenant, allons-nous avoir la justice sociale ? On a l'impression qu'il y a une force en Égypte, une force contre-révolutionnaire qui refuse que ces exigences de justice sociale soient satisfaites.
Mais c'est un peu la même chose que ce que disait Akram sur la Tunisie.
Oui.
Est-ce que le peuple tunisien a l'énergie, la conviction, la possibilité aussi de transformer cette première étape de la révolution en lutte sociale ?
Oui, mais c'est un problème. Enfin, je ne veux pas faire de grandes théories de la révolution, mais je pense que c'est un problème qu'on peut retrouver dans beaucoup de révolutions. Voilà, ça c'est un point sur les ouvriers. Je voulais vraiment parler d'une autre question, parce que tu as employé, Daniel, au début de l'émission, tu as employé deux mots, sourire et réfléchir. Et ça me semble essentiel de reprendre ces mots pour décrire ce qui s'est passé en Égypte. C'est-à-dire que, qu'est-ce qu'on pouvait voir le soir de la chute de Moubarak sur la place Tahrir au centre du Caire ? Effectivement, des gens qui souriaient, et des gens qui réfléchissaient, des gens qui discutaient. Et ça me semble essentiel de le dire, parce que quand je suis rentré en France, les chroniqueurs faisaient part de leurs craintes par rapport aux frères musulmans. C'est-à-dire qu'on regardait ces révolutions, nous, peuple européen, imbus de démocratie et qui pensons tout savoir sur la démocratie, on les regardait de haut en pensant que ces gens-là n'ont absolument rien à nous apprendre sur ce qu'est la démocratie. Or, je suis persuadé que ce que nous avons vu là, et surtout en Égypte, nous apprend énormément de choses sur la démocratie et a des choses à nous dire. Et ces choses qu'elle a à nous dire, ce sont sourire, réfléchir et exercer une joie démocratique. Donc le soir, sur la place Tahrir, le soir de la chute de Moubarak, on voyait ces groupes se réunir, des gens discuter à partir de rien, des gens qui ne se connaissaient pas, des gens sourire. Dans le métro, les jours qui suivaient la chute de Moubarak, des conversations naissaient entre les gens, mais des conversations entre des gens qui ne se connaissent pas. Il y a une libération de la parole et on sentait une joie, un bonheur de participer à cette politique. Donc voilà, je voulais juste transmettre cette joie aujourd'hui.
Alors, ce qui se passe, Gilbert Achkar, là, on arrive dans notre sujet, c'est que la Tunisie n'est pas l'Égypte. L'Égypte est un élément très important de toute la question du Proche-Orient, du conflit israélo-palestinien, du jeu que jouent les États-Unis traditionnellement dans cette région, des alliances avec l'Iran, etc. Alors, qu'est-ce qui est en train de bouger? Qu'est-ce qui se passe? Et quel est, Halimi a commencé dès le début par évoquer le rôle des États-Unis. On fait quand même un petit peu partie des gens qui pensent qu'il y a toujours un complot américain derrière et que les Américains tirent les ficelles. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous pouvez nous brosser un peu un paysage de cette situation mouvante?
Pour les États-Unis, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un mouvement qui les a surpris dans son ampleur, comme il a surpris tout le monde. Ils n'étaient pas mieux renseignés que quiconque sur ce terrain-là. Bon, ils pouvaient s'attendre à ce qu'il y ait des tensions sociales, y compris des explosions sociales. Bon, ce qu'ont révélé les câbles de Wikileaks sur la façon dont le régime Moubarak, pour prendre celui-ci, était perçu par les diplomates américains, montre bien qu'ils savaient à quoi ils avaient affaire. Ce qui explique aussi la pression maintenue au fil des ans avec des hauts et des bas pour des réformes dans le régime, pour une certaine démocratisation dans le régime. Une pression qui a atteint un moment fort en 2005 lorsque l'administration Bush était en mal de justification pour son aventure irakienne après le fait que les armes de destruction massive se soient avérées un mensonge pur et simple. Et cette pression a permis une certaine ouverture de la part du régime qui a profité essentiellement aux frères musulmans comme force structurée de l'opposition, ce qui était également un moyen pour le régime Moubarak de faire peur aux États-Unis. Donc il y a cette ambiguïté d'États-Unis qui sont conscients du fait que le caractère despotique de ces gouvernements à terme est un danger, y compris pour les intérêts des États-Unis, donc pour la stabilité de la région. Mais en même temps, ils sont face à ce paradoxe pour eux. J'emprunte le terme à Huntington, là, l'auteur du choc des civilisations, de ce qu'appelle le paradoxe de la démocratie, c'est-à-dire des élections véritablement démocratiques dans des pays où l'hostilité à la politique des États-Unis est très forte, ne peuvent que produire des gouvernements hostiles aux intérêts américains. Donc il y a ce dilemme. Et Washington a dû naviguer dans cette situation-là, dans cette contradiction. Bon, c'était d'abord le souci que l'armée n'intervienne pas dans la répression. Ce même phénomène a eu lieu en Tunisie, c'est-à-dire préserver un élément central de l'appareil d'État. Le préserver pourquoi ? Parce que la peur, la crainte était là face à de tels mouvements qu'une intervention de l'armée dans la répression aboutisse à des mutineries, à des refus d'obéissance de la part des soldats, d'où cette crainte. Donc une armée qui joue le jeu d'une certaine neutralité, en Tunisie, l'armée a joué un rôle décisif dans le fait de précipiter le départ de Ben Ali. Et en Égypte, c'est l'armée qui prend le relais de Moubarak. Alors après, il sera difficile de savoir comment ça s'est passé exactement avant qu'il y ait des témoignages. Mais une chose est certaine, c'est que Washington a suivi de près cette transition. Depuis le début du mouvement, on voit dans les communiqués de Washington la formule « transition dans l'ordre » qui revient de manière incessante. Donc d'une part, la conscience de la nécessité d'une transition. D'autre part, la volonté que ça se fasse dans l'ordre, c'est-à-dire en préservant ce qui est pour eux l'essentiel, le statut, le rôle, le contrôle des militaires dans le pays. Voilà. Donc, dans la mesure où c'est un mouvement de masse qui échappe à tout le monde et aux États-Unis en particulier, il y a affaiblissement de l'influence des États-Unis dans la région. Bon, ça, tout le monde l'a souligné. Mais en même temps, par rapport aux classes possédantes de la région et en particulier les monarchies pétrolières, le rôle protecteur des États-Unis est plus que jamais central, parce que là, c'est la panique absolue de ce côté-là. Donc, le fait que des mouvements surgissent comme cela fait en même temps du rôle des États-Unis un rôle plus décisif aujourd'hui dans ces contradictions qui se jouent dans la région.
Vous avez des questions à poser dans le public, des observations à faire?
On a entendu un certain embourgeoisement de frères musulmans. Et pour preuve, on évoque le réveil du mouvement ouvrier en Égypte en pendant les grandes grèves de 2007, que les frères musulmans n'ont pas soutenu ce mouvement. Et en plus, il y avait une grande grève dans une usine qui appartenait apparemment à quelqu'un de la direction de frères musulmans. J'aimerais savoir si c'est vrai. Est-ce qu'on peut qualifier les frères musulmans comme une force bourgeoise, néolibérale, qui font partie de classes possédantes? Est-ce que c'est vrai ou pas?
Merci pour votre question. C'est quand même assez formidable de voir que notre nouveau ministre des Affaires étrangères a rencontré les frères musulmans sans que ça lui pose de problème. Au contraire, en indiquant qu'il y avait des dialogues possibles et qu'on pouvait s'entendre avec ces gens-là. Comment expliquer cette évolution, Gilbert ?
La rencontre, donc c'est en Égypte, on parle des frères musulmans égyptiens. Dans le contexte actuel du pays, les frères musulmans apparaissent comme une planche de salut un peu pour l'ordre bourgeois. Hein. Enfin, alors, embourgeoisement, pour parler d'embourgeoisement, il aurait fallu considérer que c'est une force de nature anti-bourgeoise, ce qui n'a jamais été le cas. Enfin, c'est un mouvement dont la base sociale est couche moyenne, petite bourgeoise, petite bourgeoisie traditionnelle en partie, petite bourgeoisie universitaire de l'autre. Mais sur le plan du programme, c'est un mouvement qui s'est inscrit pendant les années 50 et 60 contre le socialisme nassérien, entre guillemets, qui n'a rien dans son idéologie d'hostile au néolibéralisme, puisqu'il vient d'être évoqué. D'ailleurs, on peut en dire autant, y compris du régime iranien. Hein. Ce ne sont pas des régimes qui ont des approches socialistes ou quoi que ce soit. Bon, ils sont du côté de la propriété, de la restitution des propriétés aux propriétaires terriens. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont approuvé. Et sur l'affaire des grèves, leur leader spirituel a contribué à l'appel à la cessation des grèves. Donc ce n'est pas une force qui menace l'ordre social en tant que tel. Alors la crainte jusqu'ici du côté occidental, c'est plus la dimension idéologique, c'est également la dimension anti-occidentale. C'est cette crainte-là qui dominait. Or, les frères musulmans ne cessent de donner des gages sur ce terrain-là, comme sur le terrain de ce que Washington appelle la transition dans l'ordre. Et aujourd'hui, enfin, pour les militaires en Égypte, devant un régime qui est assez discrédité, même si pour l'instant certaines de ses structures fondamentales sont toujours là, eh bien, un interlocuteur comme les frères musulmans, c'est quelque chose de précieux. Alors, on le voit à plusieurs niveaux. On voit une sorte de collusion, si l'on peut dire, entre les militaires d'une part et les frères musulmans, qui sont payés en retour. D'ailleurs, il y a eu libération de certains de leurs prisonniers politiques, alors que la revendication du mouvement, c'est la libération de tous les prisonniers politiques. Mais je donne ça comme exemple. L'affaire de la Constituante, qui est une revendication centrale du mouvement, bon, la façon dont cela a été contourné par les militaires, c'est de former un comité de révision de la Constitution, à la tête duquel on a mis quelqu'un qui est sur la longueur d'onde idéologique des frères musulmans, sur le caractère musulman de l'Égypte, sur la charia comme source de la législation, et avec un membre qui appartient, qui est un membre connu des frères musulmans dans la commission, et aucune femme, ce qui a d'ailleurs bien été remarqué. C'est-à-dire, ils ont eux-mêmes donné le gage qu'il fallait pour ne pas effrayer l'Occident par rapport à ce scénario-là. Il y aurait eu crainte du côté occidental que des élections parlementaires dans 6 mois privilégient les forces organisées qui sont d'une part le pouvoir, secouées par les événements, mais le parti, contrairement à la Tunisie, le parti du régime est toujours là, même s'il y a eu changement de direction, et les frères musulmans. Alors, sans gage du côté des frères musulmans, il y aurait peut-être eu, en tout cas du côté occidental, pression prolongée pour donner le temps à d'autres forces de s'organiser pour ne pas se retrouver avec une majorité de frères musulmans. Or, les frères musulmans ont tout de suite expliqué qu'ils ne briguaient que 30% des sièges. Donc, ils donnent des gages et il y a ce type de collusion qui s'installe entre eux et les militaires. Et le nouveau gouvernement qui vient d'être formé, qui est beaucoup plus dans la continuité que dans la discontinuité. Hein. 15 des 26 ministres sont membres du parti du régime. Donc, bon, ce gouvernement, bon, on a vu, y compris sur la place Tahrir, le rôle des frères musulmans dans la façon dont a été accueilli le nouveau Premier ministre. Hein. Donc, il y a une collaboration qui est en place. Bon, alors, elle n'est pas complètement solide. Il peut y avoir des tiraillements. Les frères musulmans ont encore un certain nombre de revendications en ce qui les concerne, même si elles sont graduellement satisfaite, mais donc ils peuvent apparaître comme une force de consolidation de l'ordre face à la dynamique démocratique et sociale qui est en cours.
«
l'Orchestre national de Barbès. Merci à vous. On va finir avec une dernière question. Gilbert Achkar est l'auteur d'un livre sur les relations entre le monde arabe et la Shoah. Comment la Shoah a été reçue et perçue par les Palestiniens, mais pas seulement. Alors la dernière question, on ne va pas évoquer ce bouquin-là, mais je voudrais que vous disiez un petit peu ce que cette révolte, cette révolution, printemps arabe, peut changer, est en train de changer dans le conflit israélo-palestinien. Ah. Vous avez trois minutes.
C'est... Oui. Non, mais ce qu'on peut dire d'abord, c'est que pour la population palestinienne, c'est une très bonne nouvelle que tout cela. De voir ces dictatures, de voir ces régimes despotiques secoués, eux qui sont tous à des degrés divers, complices dans l'oppression du peuple palestinien, c'est une excellente chose. Et ça ne peut que se traduire par un plus pour les Palestiniens. Déjà, du côté de Gaza, enfin, il est clair que l'Égypte ne peut pas continuer la même collusion dans le blocus de Gaza qu'elle pratiquait jusqu'à maintenant. Les livraisons de gaz à bas prix à Israël, ça ne sera plus possible non plus. Donc il y a une série de pratiques très impopulaires et qui bénéficiaient à l'État d'Israël qui vont être interrompues. Alors ça ne veut pas dire que l'Égypte, par exemple, va basculer dans le camp de l'Iran ou sur une politique radicalement différente. L'Égypte, donc, c'est toujours, on l'a dit et redit, dans la transition dans l'ordre sous le contrôle des militaires, et les militaires sont étroitement liés à Washington et dépendent également du financement de Washington. Donc sur ce plan-là, on voit en même temps les limites de ce qui peut se passer. Et la façon dont les Palestiniens, eux, traduisent le mouvement, parce qu'on a vu dans différents pays différentes formes de manifestation de cette vague. Akram parlait des pays dont on ne parle pas, mais il y en a plusieurs, il n'y a pas que le Yémen. La vague a vraiment touché, on peut dire, la quasi-totalité des pays arabes. Bahreïn, Oman, la Jordanie, le Yémen. Même au Liban, on a vu une petite forme de mouvement, même si c'est relativement modeste. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, le Soudan, c'est partout. Or, dans certains pays où le problème ce n'est pas un problème de despotisme, mais autre, on voit d'autres formes ou d'autres types de revendications qui sont au centre du mouvement. En Irak, par exemple, c'est la question sociale qui est mise en avant. C'est pas un pays où on ne réclame pas d'élections parce qu'il y en a. Bon, mais c'est la question sociale qui est mise en avant. Et chez les Palestiniens, c'est la question de l'unité du peuple, des territoires, je veux dire. Donc la traduction palestinienne, pour l'instant, du mot d'ordre « le peuple veut renverser le régime », c'est « le peuple veut mettre fin à la division ». Et ce qu'ils veulent dire par là, c'est une fin démocratique à cette division, c'est-à-dire une réification des territoires palestiniens et des élections qui permettent de les réunifier politiquement, de donc sortir de cet état lamentable dans lequel ils se sont trouvés jusqu'ici.
Et comment tout ça est perçu par Israël ?
Avec énorme inquiétude. Enfin, ça a été dit et redit. Bon, on voit se dissiper toute cette hypocrisie sur, n'est-ce pas, la villa dans la jungle. C'est pour reprendre les termes d'Ehud Barak, c'est ainsi qu'il avait décrit Israël. Et d'ailleurs, des termes qui viennent tout droit du manifeste de Theodor Herzl, qui était l'avant-poste de la civilisation au sein de la barbarie. Donc Israël s'est constamment présenté sous ce trait-là. La seule démocratie du Moyen-Orient, n'est-ce pas ? Alors, au moment où de vrais et profonds mouvements démocratiques sont en cours dans la région, on voit Israël saisi d'angoisse face à cela. C'est la même angoisse qu'ont les États-Unis. C'est ce même paradoxe, entre guillemets. Ils savent très bien que de véritables régimes démocratiques, de véritables même élections démocratiques, je dirais, dans cette partie du monde, ne peut que donner lieu à des gouvernements hostiles à leur politique.
À nouveau, que disent les États-Unis par rapport à ça ? Que disent les États-Unis à Israël ?
Les États-Unis, c'est encore une fois, c'est la hantise aujourd'hui, c'est de contrôler tout ce processus, de s'assurer du fait que ça n'échappe pas à tout contrôle, que ça se tasse, qu'on puisse garantir que ça se tasse, que ça aboutisse à des élections, etc. Donc une démocratie électorale, mais une démocratie électorale à la manière de ce qu'il y a eu en Turquie. Donc en 80, il y a eu un coup d'État militaire qui a lui-même organisé une transition sous contrôle des militaires vers une démocratie électorale qui s'est mise en place et qui, en tout cas pendant longtemps, a donné lieu à des partis de gouvernement qui n'ont représenté aucune menace, loin de là, pour les États-Unis. On peut en dire autant, d'ailleurs, malgré certaines gesticulations du gouvernement turc actuel. Hein, la Turquie reste fermement ancrée dans l'OTAN et accepte le déploiement de missiles sur son territoire qui sont très ouvertement orientés vers l'Iran, et ce qui d'ailleurs entraîne un peu de tension en même temps entre l'Iran et la Turquie sur ce terrain-là. Donc c'est ce que souhaitent les États-Unis, c'est que ils arrivent à gérer cette transition et à avoir affaire à des gouvernements dans le cadre de démocratie électorale, mais avec la garantie de forces armées liées à Washington et capables d'intervenir si ça dérapait.
Des questions encore, monsieur ?
Oui, je me réfère à la page 14 du Monde diplomatique qui a publié une très belle carte du Moyen-Orient et du Maghreb avec les mouvements sociaux, l'explosion sociale, qui donne un peu historiquement tous les mouvements sociaux depuis des dizaines d'années et qui est très intéressante. Il y a un pays qui est bien signalé sur la carte où il ne se passe rien. C'est le Sahara occidental. Or, le Sahara occidental, depuis 2005, il y a un soulèvement populaire. Il y a eu depuis des manifestations qui sont réprimées. Et il y a eu en octobre un transfert de population dans des tentes qui a été dévasté par l'armée marocaine, et les 20 000 Sahraouis qui s'étaient réfugiés ont été obligés de retourner à El Aaiun. Il y a eu des manifestations violentes et ces manifestations continuent. Il y a actuellement 150 prisonniers, dont 20 qui sont poursuivis devant le tribunal militaire. Il n'y a pas grand monde qui en parle en France. Et on parlait de la Tunisie qui a démarré en décembre. Ce mouvement a démarré au Sahara occidental en octobre avec ses grandes manifestations en novembre, et je citerai juste Noam Chomsky, qui a déclaré récemment à la chaîne américaine Democracy News, en fait, la vague actuelle de protestation a commencé en novembre dernier au Sahara occidental contre l'occupation du Sahara occidental. Donc, je soumets ça à votre réflexion parce que je trouve que les médias en général et le monde diplomatique et là-bas, si j'y suis en particulier, n'en parlent pas beaucoup.
Ok, merci, on note. Eh bien, écoutez, merci à tous. Je remercie l'équipe du Monde diplomatique, Serge Halimi, Gilbert Achkar, Raphaël Kempf et Akram Belkaïd. Je remercie aussi l'équipe de Radio France, les techniciens de Radio France, Jean-Pierre Zinc, Étienne Leroy et Stéphane Poitvin. Et puis l'équipe de la Java, Christine, Mani, Mathilde et Mansour. Et on va finir avec l'Orchestre National de Barbès que nous remercions chaleureusement. Merci à tous.
I'm
épaules. Arrch. Trois fois les pieds. Spécial.
L'Orchestre national de Barbès, enregistré à la Java à l'occasion de cette rencontre avec les journalistes du Monde diplomatique. Le numéro du Monde diplomatique, ben c'est celui du mois de mars. L'Orchestre national de Barbès ont sorti un disque en mai dernier. Rendez-vous à Barbès. Et puis autre chose, un bouquin qui vient de sortir et qui nous fait très plaisir. Un dialogue entre Michel Pialou, le sociologue Michel Pialou, et Christian Corrouge, qui est un ouvrier de Peugeot et un syndicaliste. Et c'est un long dialogue, et ça fait plus de 20 ans que ces deux gars, le sociologue et l'ouvrier syndiqué, parlent, et ça donne un bouquin formidable sur ce que c'est que, pas seulement la condition ouvrière, mais qu'est-ce que c'est que la condition ouvrière quand on est syndicaliste, ou qu'est-ce que c'est que le syndicalisme quand on est un ouvrier. Et c'est tout le parcours de cet homme, ses craintes, ses trouilles, ses désespoirs, l'idée que c'est utile, que c'est plus utile, etc. C'est un bouquin merveilleux, et ça ne suit pas la forme canonique habituelle de la sociologie. Je vous conseille, ça s'appelle Résister à la chaîne. On les invitera dans un numéro de là-bas si j'y suis à venir. Dialogue entre un ouvrier de Peugeot et un sociologue. C'est aux éditions Agone dans la collection Mémoire sociale. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter, à la rubrique émission Là-bas si j'y suis, où vous pouvez réécouter cette émission et faire des commentaires, bien sûr, ou sur là-bas.org, là-bas.org. Là aussi, vous pouvez vous écrire des commentaires. À la technique aujourd'hui, Pascal Baldassari et Guillaume Roux. C'est Coyen Nguyen et Franck Adhérer et Antoine Chao qui ont réalisé cette émission modeste géniale, il faut le reconnaître. Assisté d'Agnès Slobot et à Marina Touyez, attend quant à elle vos messages sur le répondeur de la base. J'y suis au 01 56 40 37 37.
France Inter et l'Odéon Théâtre de l'Europe présentent du 16 mars au 10 avril un spectacle d'Olivier Py. Adagio, Mitterrand, le secret et la mort. Le dialogue avec lui-même d'un homme de verbe et d'action qui travailla sa propre fin comme l'ultime rôle à sa mesure. Retrouvez Adagio dans les émissions de France Inter.
16h30 sur Inter. À demain, 15h, pour la basse J'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Delphine Simon. Salut!
L'affaire d'espionnage présumée chez Renault peut être requalifiée en escroquerie ou renseignement. C'est ce qu'indique le procureur de la République de Paris, Jean-Claude Marin, après la mise en examen et l'incarcération d'un responsable de la sécurité de Renault. Dominique Jevray aurait détourné l'argent versé par le constructeur automobile pour mener à bien les investigations. Il est pour le moment peu bavard, affirme Jean-Claude Marin.
Les déclarations faites par M. Jevray, qui clame toujours être de bonne foi et nie tout esprit de manipulation ou d'escroquerie, ne nous permettent pas, en l'état actuel des choses, de fonder beaucoup d'éléments sur son comportement. Il dit qu'il fera au cours de l'instruction des révélations sur l'identité de sa source, sur d'autres comptes bancaires. Nous attendons que ces révélations soient faites. Pour l'instant, tous les éléments qui ont été fournis, soit à son employeur, soit aux enquêteurs, se sont révélés faux ou inexacts.
Pour le procureur de Paris, les cadres de Renault accusés d'espionnage et licenciés ne disposent d'aucun compte à l'étranger. Renault qui vient de leur présenter ses excuses, ils ont été accusés à tort. L'urgence nucléaire au Japon, où les autorités tentent toujours d'empêcher une catastrophe à la centrale de Fukushima à 250 km de Tokyo. Les épais murs des caissons semblent résister autour du cœur des réacteurs endommagés de cette centrale. Ce matin, des explosions conduisent à l'arrêt d'un circuit de refroidissement. Le bilan humain du séisme est particulièrement lourd. Il commence à s'affiner trois jours après la catastrophe. Au moins 10 000 morts, 2 000 corps ont été retrouvés dans la ville côtière de Miyagi. 2 millions de Japonais sont toujours privés d'électricité, 600 000 personnes déplacées à Tokyo. La bourse a perdu plus de 6% ce matin. La Libye au menu d'une réunion ministérielle de haut niveau à Paris où se retrouvent les chefs de la diplomatie des 8 pays les plus industrialisés. Parmi eux, 4 des 5 pays membres du Conseil de sécurité. Paris va redemander la mise en place d'une zone d'exclusion aérienne. Mais du côté du Pentagone, on affirme que rien n'est décidé. Sur le terrain, les forces du colonel Kadhafi ont lancé l'assaut contre la ville de Zouara, non loin de la frontière tunisienne. À l'est de la Libye, une autre offensive se prépare à Ajdabiya, non loin de Benghazi, bastion de l'opposition armée. À Bahreïn, un millier de soldats saoudiens ont pénétré dans le royaume. Riyad indique avoir répondu à une menace sur la sécurité, alors que la contestation est très vive depuis un mois. Les chiites, majoritaires dans le pays, réclament des changements politiques au régime sunnite. Bahreïn a demandé l'aide militaire de ses voisins du Golfe. Marine Le Pen accueillie par une manifestation antiraciste à Lampedusa. La dirigeante du Front National effectue cet après-midi une visite éclair sur l'île italienne, port d'arrivée de nombreux migrants venus du sud de la Méditerranée. Un déplacement très médiatisé à quelques jours des cantonales de dimanche prochain. Enfin, de fortes pluies attendues cet après-midi dans le Languedoc et le Roussillon. Météo France a lancé une alerte orange. Il y a un risque d'inondation. L'alerte vaut jusqu'à mercredi matin.
Tous les jours.
Alors racontons l'histoire.
À partir de 11h.
Elle était bourrée, mais bourrée. Une vraie douanière.
Du roi.
Stéphane Bern.
Et là, elle me dit.
Pour assister au prochain Fou du Roi en direct du studio 106 avec Hélène MacArthur et Jean-Noël Fabiani, rendez-vous demain mardi dès 10h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
God save the Queen, enlève ta gaine, mamie pudding.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Fou du Roi, tous les jours sur France Inter à partir de 11h. France Inter, partenaire du Salon du Livre de Paris, Porte de Versailles, du 18 au 21 mars. Une édition 2011 riche et éclectique avec au programme les lettres nordiques, la littérature d'outre-mer, le roman noir et les livres en série. Retrouvez les émissions de France Inter en direct et en public du salon. Renseignements sur franceinter.com. France Inter. France Inter.
La différence.
Il est 16h05, c'est l'heure de retrouver Frédéric Ledéon. Bonjour Frédéric.
Bonjour Delphine. Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous, dans 25 minutes, je recevrai la très grande Maddy Mesplé, cantatrice, soprano, stratosphérique, à la voix incroyable. Elle fête ses 80 ans et on publie chez EMI Classics un bel album. Elle viendra nous en parler, on écoutera surtout la très belle musique, une carrière qui a été longue, internationale, et Maddy enseigne toujours, donc vraiment un trésor national vivant, comme on dit au Japon. Alors, à propos de Japon, vraiment ce peuple souffre énormément, et je vous propose pour commencer l'émission d'entendre une jeune violoniste, évidemment marqué déjà dans ce jeune âge par la tragédie de son pays, Sayaka Shoji, qui a interprété récemment pour le disque Jean-Sébastien Bach et Max Reger. On a l'impression que Bach, c'est la divinité, qu'il y a une consolation. Évidemment, Bach lui-même n'avait pas de remède à toutes les difficultés. Il a subi des deuils, il a subi une maladie, une opération complètement ratée. Il n'a pas pu empêcher le chemin vers la mort. Bien sûr, il n'a pas pu freiner ce cheminement. Mais en tout cas, l'impression de cette grande sagesse qui se répand sur nous quand on l'entend, je crois que c'est toujours utile et vraiment ça fait du bien. Presto de la première sonate pour violon seul de Jean-Sébastien Bach. Thank you.